Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 12, Daf Yud Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Dilma Lohi, peut-être que ce n'est pas une preuve de cette Mishnah. Peut-être en fait que cette question ne dépend pas de la discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Parce que Adkan Lokama Rabbi Eliezer, jusque là nous avons vu l'opinion de Rabbi Eliezer Hatam, là-bas dans le cas de la PA, où c'est un riche qui l'a pris pour le compte d'un pauvre, et là, demi-godi bae mafkir, mafkar lehu lenirse. Parce qu'en fait, ce riche avait la possibilité d'exproprier tous ses biens et de se défaire de tous ses biens, vehaveani, et il serait ainsi devenu pauvre, vechazele. Et cette PA, donc, aurait pu aussi lui revenir, umigod zachele le nafshe, et puisqu'il aurait pu acquérir cette PA pour lui-même, zachele chavre, il peut aussi l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Aval hacha, mais ici dans le cas d'une saisie pour le compte d'un créancier, puisqu'il n'aurait pas pu saisir ses biens pour lui-même, peut-être que cette saisie ne sera pas légitime, même selon l'avis de Rabbi Eliezer. Ve'ad kan lo kamre rabanan. Et jusqu'ici, nous n'avons vu l'opinion des Chachamim Hatam que là-bas. À propos de la PA, ils disent que cette saisie n'est pas légitime, et l'addictive, l'hôte et la quête, ne récolte pas la PA, les anis, etc. Tu la laisseras pour le pauvre. Ce pasouk peut être interprété aussi de la manière suivante. L'hôte et la quête, l'hôte et anis, ne ramasse pas la PA, ne récolte pas la PA pour le compte du pauvre. Il y aura donc ici une interdiction spécifique de la Torah dans ce cas. Aval hacha, mais dans le cas de celui qui saisit des biens pour le compte d'un créancier où il n'y a pas d'interdiction de la Torah de le faire, l'eau, peut-être que là, cette saisie pourrait être légitime, même si celle-ci porte préjudice à d'autres personnes. Finalement, donc, de cette Mishnah, nous n'aurons pas de preuve pour trancher notre question. La Gemara demande, Rabbi Eliezer, hay lo telaket maya vidle. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer apprend de ce pasouk de l'hôte et la quête, tu ne ramasseras pas, puisque finalement, le pasouk dit clairement que cette PA doit être laissée pour les pauvres. Il est évident que le propriétaire du champ ne pourra pas récolter cette PA pour lui-même. L'agma répond, mi va elé, on apprend de ce pasouk, le azir, le ani al shelo. Ce pasouk vient interdire aux pauvres, qui auraient droit théoriquement à la PA, mais qui a aussi un champ. Alors le pasouk vient interdire à ce pauvre de récolter cette PA pour lui-même. Il devra la laisser à un autre pauvre. S'il veut bénéficier de la PA, il devra aller en chercher dans un autre champ. Nous avons fini ici le chiot de Gittin Daf Yud Aleph. Nous commençons le chiot de Gittin Daf Yud Bet. Nous commençons à la 8e ligne du haut de la page, aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shem Yirtzeh Shelo Lazun » etc. Le maître a le pouvoir de ne pas nourrir son esclave. Shmat Mina, la Gemara dit de là, on peut déduire, Yachol Arav Lomar Le'eved, un maître peut dire à son esclave, Aseimi Ve'inizanach, travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas. Si tu veux te nourrir, va mendier. Parce que sinon, la Mishnah n'aurait pas pu dire que le maître a la possibilité de ne pas nourrir son esclave. La Gemara répond, Hacha Bema'eskinan, ici, il s'agit d'un cas, et c'est dans ce cas, que s'applique cette loi, de Amarlo, que le maître a dit à son esclave, Tse, Maase yadecha limzonotecha, sors, quitte ma maison, et les fruits de ton labeur pourvoiront à ta nourriture. Dans ce cas, effectivement, le maître peut lui dire, je ne te nourrirai pas, puisque tu peux travailler pour gagner ta vie. La Gemara demande, Dekvata gabeisha, on dira qu'il s'agit du même cas, concernant la femme à propos de laquelle la Mishnah dit que le mari ne peut pas dire à sa femme qu'il ne la nourrira pas. De Amarla, nous dirons donc qu'il s'agit d'un cas, Tsei, Maase Adaïr, Bimzonotaïr, quitte ma maison et le fruit de ton labeur pourvoiront à ta nourriture. Alors, Isha Amailo, pourquoi est-ce que dans ce cas, le mari ne peut pas dire à sa femme qu'il ne la nourrira pas, puisque finalement, il lui dit de gagner sa vie. La Gemara répond, Isha bedelo safka. Un mari ne peut pas dire à sa femme de gagner sa vie et de ne pas la nourrir, si son travail ne suffit pas pour la nourrir. La Gemara demande, « Evednami de l'osapik ». Si c'est comme ça, dans le premier cas de la Mishnah, aussi nous dirons qu'il s'agit d'un cas où l'esclave ne, le travail de l'esclave ne suffit pas pour le nourrir. Et quand même, la Mishnah nous dit que le maître a le droit de ne pas le nourrir. Et comment ça se fait? Quelle est la différence? Puisque finalement, nous disons que le maître ne peut pas ne pas le nourrir à moins de lui dire qu'il gagne sa vie. La Gemara répond, Avda de nehom karse lo shavia, un esclave qui ne vaut pas le pain qu'il fait rentrer dans son ventre. En d'autres termes, un esclave qui ne vaut même pas la nourriture qu'il mange, le maré ou le marté, le mamit baé. Qu'est-ce que son maître ou sa maîtresse ont besoin de lui? En d'autres termes, on ne pourra jamais obliger un maître à nourrir son esclave si son travail ne suffit même pas pour le nourrir. Par contre, concernant la femme, même si son travail ne suffit pas pour la nourrir, son mari s'est engagé au moment de son mariage de la nourrir. En tout cas, nous restons donc avec une question. Est-ce que le maître peut ne pas nourrir son esclave même s'il garde les fruits de son labeur, ou bien il ne peut ne pas le nourrir que s'il laisse l'esclave gagner sa vie? La Gemara dit, Tashma vient coûte une preuve d'une braïta. Eved Shegala Leare Miklat, un esclave qui aurait été exilé dans une ville de refuge, c'est dans le cas où il a tué quelqu'un involontairement. Il doit donc se sauver dans une ville de refuge et il ne peut plus quitter cette ville jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. En rabo chayav lezuno, son maître n'a pas l'obligation de le nourrir. Velo od, et non seulement cela, ela shema asei adav le rabo, les fruits de son labeur reviennent à son maître. Shma mina, on peut donc déduire de là, yachol harav lomar le eved, un maître peut dire à son esclave, asei mi veinizanach, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. Si tu veux te nourrir, tu m'en diras. Agma répond, là aussi ce n'est pas une preuve, ici il s'agit d'un cas d'Amarlo, où le maître lui a dit, sors, le fruit de ton labeur, te nourriront. Agma demande, yachi, si c'est comme ça, Maseada va mail rabo, pourquoi ce qu'il gagne revient à son maître, puisque finalement il lui a dit que ce qu'il gagne servira à le nourrir. Agma répond, le haadafa, ce qui revient au maître, c'est ce que l'esclave gagne plus que ce qu'il a besoin pour se nourrir. La Gemara demande, Hadafa Pshita, s'il gagne en plus, s'il gagne plus que ce qu'il a besoin pour se nourrir, il est évident que cela revient au maître, puisque finalement cet esclave appartient au maître. La Gemara répond, Maud et Tema, on aurait pu dire qu'Ivan de Chiletle, Loya Ivle, puisque si l'esclave ne gagne pas suffisamment pour se nourrir, le maître ne le nourrira pas, qui Itle, Namilo Lishkolmine, alors même s'il gagne plus que ce qu'il a besoin pour se nourrir, alors que le maître ne lui prenne pas ce qu'il a gagné en plus pour les jours où il ne trouvera pas de travail. Kamash Manan, c'est pourquoi cette braïta nous enseigne que s'il gagne plus que ce qu'il a besoin pour se nourrir, il le remettra au maître, même si par la suite, il ne trouvera pas de travail. La Gemara demande, Umay Shana Leare Miklat, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la braïta nous enseigne ce chidouche concernant l'esclave qui a dû s'exiler dans une ville de refuge? Avec ma réponse, Sal Kadata Hamina, j'aurais pu croire que la Torah dit concernant celui qui est exilé dans une ville de refuge, Vechai, et il vivra parmi toi, ce qui peut être interprété comme accorder des facilités de vie à celui qui a été exilé dans une ville de refuge. On aurait pu croire que Avidle Chiyutatfe, qu'on accorde à cet esclave un supplément de facilité pour vivre, et qu'on lui laisse donc garder ce qu'il a gagné en plus pour le jour où il ne trouvera pas de travail. Kamash Malan, c'est pourquoi la Breita nous enseigne que même dans ce cas, le maître encaissera tout ce que l'esclave a gagné en plus. La Gemara demande, Veham ide katane sefa, voici, puisqu'il est écrit à la fin de cette Breita, Aval Isha Shegalta la Remiklat, mais une femme qui s'est exilée dans une ville de refuge, s'il a tué quelqu'un involontairement. Bala chayavim zonotea, son mari a l'obligation de la nourrir. Miklal de l'Amarla, on peut donc déduire qu'il s'agit d'un cas où le mari ne lui a pas dit, va gagner ta vie pour toi-même et le fruit de ton labeur suffira pour subvenir à tes besoins. Dei Amarla Bala, parce que si son mari lui avait dit que les fruits de son labeur subviendront à sa subsistance, Amay Chayav, pourquoi a-t-il l'obligation de la nourrir? Et puisque cette braïta compare le cas de la femme au cas de l'esclave, au mi des sefa de l'Amarla, et puisque donc le dernier cas de la braïta qui parle de la femme, il s'agit d'un cas où le mari ne lui aurait pas dit qu'elle gagne elle-même sa vie, Rechanami de l'Amarla, on pourra déduire de là que le premier cas de la braïta parle aussi d'un cas où le maître n'a pas dit à son esclave qu'il gagne sa vie lui-même. Et quand même, nous pourrons voir dans cette braïta, selon cela, que le maître a la possibilité de faire travailler son esclave sans qu'il le nourrisse. L'agma répond, « L'olam d'amarle. » Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'un cas où le maître a dit à son esclave qu'il gagne lui-même sa vie. « Ve'isha bedelosavka. » Et la raison pour laquelle le mari a l'obligation de nourrir sa femme, même dans ce cas, c'est qu'il s'agit d'un cas où son travail ne suffit pas pour la nourrir. Alors que, comme nous l'avons vu dans la Gemara, même si le travail de l'esclave ne suffit pas pour le nourrir, le maître n'a pas l'obligation d'ajouter un supplément pour le nourrir. Alors la Gemara demande, Veham et Dekatan et Sefa, voici, puisqu'il est écrit à la fin de cette braïta, Vimamar la Tzima Seadaïr Bimzenotaïr, si le mari lui a dit, sors, et que le fruit de ton labeur subvienne à ta nourriture, Rachai, il a le droit de le dire. Miklal de Recha de l'Amarla. On peut déduire de là que dans le premier cas, dans le cas du milieu qui parle de la femme qui a été exilée, il s'agit d'un cas où son mari ne lui a pas dit de gagner sa vie, et c'est la raison pour laquelle il a l'obligation de la nourrir. On pourra donc déduire de là que même dans le cas où le maître n'a pas dit à son esclave de gagner sa vie, le maître n'a pas l'obligation de le nourrir. Agma répond, il n'y a pas de preuve. Harikamar, mais en fait c'est cela que la Braïta a voulu dire. Ve'im maspeket. Et si son travail suffit pour la nourrir, ve'amar la tzima se'adaych bimzenotayir, et le mari lui a dit, sors, que le fruit de ton labeur subvienne à ta nourriture, Rachai, il a le droit de le dire, il n'aura plus l'obligation de la nourrir. Alors que, pour l'esclave, même si son travail ne suffit pas à subvenir à ses besoins, quand même, le maître n'a pas l'obligation de le nourrir s'il gagne lui-même sa vie. La Gemara demande, Maspeket Maile Memra, si son travail suffit pour la nourrir, alors quel est le chidouche que le mari n'a pas l'obligation de la nourrir? La Gemara répond, Mahou de Tema, j'aurais pu croire qu'on applique ici le pasouk de Tehilim Memhe, Kol Kevuda Batmelech Penima. Ce pasouk peut être interprété de la manière suivante, que l'honneur d'une fille de roi est à l'intérieur de la maison. Comme nous savons que les Bnei Israël sont considérés comme étant fils de roi, nous apprenons de ce pasouk que l'honneur d'une femme juive est de se trouver chez elle à la maison. En d'autres termes, quand cette femme habitait dans sa ville, où les gens la connaissaient, les gens lui amenaient du travail à la maison. C'est la raison pour laquelle son travail suffisait pour la nourrir. Mais une fois qu'elle était exilée pour trouver du travail, théoriquement, elle doit aller chercher dans les rues. On aurait pu croire que c'est une atteinte à l'honneur de la femme et qu'elle n'ait pas l'obligation de le faire. Et que son mari, donc, n'aurait pas la possibilité de lui dire qu'elle gagne sa vie. Kamash Malan, c'est pourquoi la Bretagne nous enseigne que même dans ce cas où elle devra chercher du travail dans les rues, quand même, le mari a la possibilité de lui dire de gagner sa vie. Et si son travail suffit pour la nourrir, le mari n'aura pas besoin d'ajouter. La Gemara demande, Lema Ketanaï, peut-on dire que cette question que nous avons eue plus haut, c'est-à-dire est-ce que le maître a la possibilité de faire travailler son maître son esclave sans le nourrir, est-ce que c'est une machloket Tanaïm? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il y a une breta qui dit comme suit, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Yachol ha'eved lomar le rabo b'shne batzoret, un esclave peut dire à son maître pendant une année de disette, pendant des années de disette, « O parneseni, ou bien nourris-moi, o hotsieni le cherout, ou bien libère-moi. » Les chachamim omrim, les chachamim disent, « Harishut biyad rabo, le maître a le droit de le garder, même s'il n'a pas de quoi le nourrir. » « Maïlav behakami falge, n'est-ce pas que c'est cela leur sujet de discussion ?»« De mar savar yachol, les chachamim pensent, qu'un maître peut faire travailler son esclave sans le nourrir. C'est pourquoi même en période de disette, l'esclave ne peut pas réclamer qu'on le libère. Umar Savar Eno Yachol. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel pense qu'un maître ne peut pas faire travailler son esclave sans le nourrir. Par conséquent, en période de disette où le maître n'a pas de quoi le nourrir, l'esclave peut réclamer en disant « Soit nourris-moi, soit libère-moi. » La Gemara demande « Vetis Bera, est-il possible d'interpréter ainsi cette discussion ?»« Hay o parneseni o hotieni le cherut » Est-ce ainsi que l'esclave doit formuler sa réclamation « Soit nourris-moi, soit libère-moi » « O parneseni, o teni masé adab parnasati mi vaele » C'est ainsi qu'il aurait dû s'exprimer. « Soit nourris-moi, soit donne-moi les fruits de mon labeur pour que je puisse me nourrir. » Et en plus, « Maïshana beshne batzoret » Pourquoi la Braïta parle uniquement d'une période de disette? En fait, ce problème peut se poser n'importe quand. Si le sujet de discussion est « Est-ce que le maître peut faire travailler son esclave sans le nourrir ?» Et là, c'est pourquoi « Hachabe maeskinan » Ici, c'est de ce cas qu'il s'agit. De Amarlo, Tsemase Adechab Limzonotecha. Que le maître a dit à son esclave, sors, que le fruit de ton labeur te nourrisse. Ubishne Batsoret Losafak. Et en période de disette, son travail ne suffit pas à le nourrir. Rabban Shimon ben Gamliel Savar. Alors Rabban Shimon ben Gamliel pense, O Parneseni, O Hotsieni Lecherut. Soit nourris-moi, soit libère-moi. Pour que les gens qui me voient affamé et auront pitié de moi et ils me nourriront. Parce qu'en tant qu'esclave, les gens n'auront pas pitié de moi. En d'autres termes, puisque nous sommes maintenant en période de disette, j'ai du mal à mendier. Verabanan Savre, le Chachamim pense, Man de Merachem Abnechare, celui qui aura pitié des gens libres, Aeved Namir El Khoumé Merachem, ces mêmes personnes auront aussi pitié des esclaves. Parce que finalement, les esclaves ont l'obligation d'accomplir les mitzvot comme les femmes. En d'autres termes, ils sont aussi considérés comme juifs. Et il y a une obligation de les nourrir. Finalement donc, de cette braïta aussi, nous n'avons pas de preuve. Tashma, viens, écoute une preuve. De Amar Rav, ce que Rav a dit, Hamakdish Yede Avdo, celui qui sanctifie les mains de son esclave. Par conséquent, tout ce que l'esclave produit appartiendra au Hekdesh, au Bet HaMikdash. Oto Ha'eved, cet esclave, Lové Veochel, empruntera de l'argent et mangera pour se nourrir, Veose ou Porea. Puis il travaille et payera ses dettes par les fruits de son labeur. Shma Mina, on peut déduire de là, Yachol Harav Lomar Le'eved, un maître peut dire à son esclave, Aseimi Veinizanar, travaille avec moi et je ne te nourrirai pas. Parce que sinon, puisque nous voyons que le maître ne nous nourrit pas, comme la Breta, comme Rav le dit, que cet esclave empruntera de l'argent pour se nourrir, alors comment est-ce que le maître a la possibilité de sanctifier le travail de son esclave? L'Agma répond, toujours pourrais-je te dire que le maître n'a pas la possibilité de dire à son esclave, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. Mais ici il s'agit d'un cas où il le nourrit, et c'est pourquoi il peut donc sanctifier le travail de son esclave. La Gemara demande, ici si c'est comme ça, les mailles levées, pourquoi a-t-il besoin d'emprunter de l'argent?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Dans la page Adaf Yudbet Amud Bet, Veochel, pour pouvoir manger, puisque déjà, il est nourri par son maître. La Gemara répond, Leha Adafa, ici, l'esclave veut emprunter de l'argent pour un surplus de nourriture. La Gemara demande, Vele Male Hekdesh, que le responsable du Hekdesh lui dise, Ad Hashta Sagelach Belo Adafa, puisque jusqu'à maintenant, tu te suffisais de la nourriture de ton maître sans supplément, Ve Hashanamitis Gelach Belo Adafa. Alors maintenant aussi, tu n'as qu'à te suffire de ce que ton maître te nourrit, sans supplément. Et donc, tout le fruit de ton labeur devrait revenir au Hekdesh. Tagma répond, Hekdesh goufé nichale. Le Hekdesh lui-même a un intérêt à ce que l'esclave se nourrisse bien, qui est l'eshbach avde, pour que cet esclave soit en meilleure santé et qu'il produise plus. La Gemara demande, Ose ou Porea, il travaille et il payera ainsi ses dettes. Comment peut-il le faire? Kama Kama Kadish. Chaque pruta, chaque pièce d'argent qu'il gagne devient déjà Ekdesh. Comment donc pourra-t-il rembourser ses dettes? La Gemara répond, Be Pachot Pachot Meshave Pruta. À chaque fois qu'il gagne moins qu'une pruta, qui est la plus petite pièce de cuivre qui existait à l'époque, il payera directement son créancier. Et cela parce que le Hekdesh ne prend pas effet sur quelque chose qui a une valeur moins qu'une pruta. Donc il travaillera et petit à petit, il payera ses dettes. Hachinami mistabra. L'Agma a conclu en disant, il est effectivement logique d'interpréter ainsi les paroles de Rav. C'est-à-dire que le maître n'a pas la possibilité de sanctifier le travail de son esclave s'il ne le nourrit pas. Et ce qu'il a dit, qu'il travaille, qu'il emprunte de l'argent et qu'il rembourse par la suite, c'est pour un supplément de nourriture. Parce que, par ailleurs, Dehama Rav, Rav a dit par ailleurs, Hamakdish Yedehavdo, celui qui sanctifie le travail de son esclave, Oto Ha'eved Osevo Ochel, cet esclave, travaillera et se nourrira. Dehilo Avda, Man Panachle, si ce n'est pas l'esclave qui travaille pour se nourrir, qui c'est qui travaillera pour lui? Qui c'est qui le nourrira? Nous voyons donc Rav qui dit que dans le cas où le maître a sanctifié les mains de son esclave, en d'autres termes, le travail de son esclave, quand même, il pourra travailler et se nourrir, et cela sans emprunter de l'argent. Alors, « I amar bishlama », on comprend bien encore si « har » le premier cas qui a été dit par Rav, où l'esclave doit emprunter de l'argent pour se nourrir, « bema ale », dans un cas où le maître le nourrit, ve enoyachol, et en fait, le maître ne peut pas dire à son esclave de travailler pour lui sans le nourrir. Et en fait, ce qu'il emprunte de l'argent pour se nourrir, il s'agit ici d'un supplément de nourriture, comme nous l'avons expliqué. Veha, et le deuxième enchaînement de Rav, Bechaino Maale, dans un cas où le maître ne le nourrit pas. Alors, Shapir, on comprend bien que dans ce cas où le maître ne le nourrit pas, puisque le maître n'a pas la possibilité de le faire travailler sans le nourrir, il n'a donc pas la possibilité de sanctifier le travail de son esclave, et il travaillera, et il se nourrira, sans avoir affaire avec le Hekdesh. Et là, Yamart, Hach Bechaino Maale, mais si tu dis que le premier enseignement de Rav s'agit d'un cas, même si le maître ne le nourrit pas, Veyachol, et quand même, le maître peut lui dire de travailler sans le nourrir, et c'est la raison pour laquelle il a aussi la possibilité de sanctifier le travail de son esclave. Alors, comment se fait-il que dans le deuxième enseignement, Rav dit « De'ilo avdaman parachle » si ce n'est pas l'esclave qui travaille pour lui-même, qui travaillera pour lui? « Mandebaini fliché » celui qui veut n'a qu'à travailler pour lui. En d'autres termes, si nous disons que le maître a la possibilité de faire travailler son esclave sans le nourrir, et s'il veut se nourrir, il mendiera, il pourra le faire, même une fois que son travail a été sanctifié. Donc pourquoi est-ce que Rav nous enseigne que dans le cas où le maître a sanctifié le travail de son esclave, que celui-ci pourra travailler et se nourrir? Et la lav shmamina, n'est-ce pas donc que nous pourrons déduire de là, enoyachol, que le maître n'a pas la possibilité de faire travailler son esclave sans le nourrir? La Gemara conclut, shmamina, effectivement, c'est une bonne preuve. Tashma, la Gemara dit, viens écoute une autre preuve, d'Amar Rabbi Yochanan. Parce que là, c'est Rabbi Yochanan qui dit « Hakotea yad avdo shel chavero » celui qui coupe la main de l'esclave de son collègue. En plus des dommages causés par cette blessure qui seront payés au maître de cet esclave, « Noten shivto » il payera le chômage. C'est-à-dire, après qu'on ait évalué la perte de valeur de cet esclave, puisqu'il lui manque un membre, et ne peut donc plus travailler comme il le pouvait avant. Mais quand même, après cela, il lui restera la possibilité de faire un travail léger. Cependant, tant qu'il est malade, même ce travail ne peut pas le faire. C'est cela qu'on appelle le chômage. Urfuato et les frais de rétablissement, les rabots, tout cela sera payé au maître. Veoto ha'eved nizon min hatzdaka. Et cet esclave sera nourri par la charité. Shmamina, on pourra donc déduire de là, puisque nous disons que que l'esclave sera nourri par la charité et non pas par son maître, alors que le maître a été dédommagé pour la blessure de l'esclave. Yachol harav lomar la eved aseimi veinizanar. Un maître peut dire à son esclave, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. La Gemara réfute cette preuve. Hacha b'maskinan, ici il s'agit d'un cas b'malelo mezonot, où le maître le nourrit. La Gemara demande, yachi, si c'est comme ça, maïnizon minazdaka, pourquoi sera-t-il nourri par la charité, puisqu'il est déjà nourri par son maître? La Gemara répond, leha adafa, en fait, on lui donnera de la charité pour un surplus de nourriture. La Gemara demande, yachi, si c'est comme ça, nizon, est-ce que c'est ainsi que Rabbi Yochanan aurait dû s'exprimer pour dire cela en disant, il sera nourri, mit parnes mi vaele? C'est ainsi qu'il aurait dû s'exprimer, que la charité pourvoira à ses besoins, puisqu'il ne s'agit pas non seulement de nourriture, mais d'un supplément de nourriture pour pouvoir mieux se rétablir. Donc ce n'est pas simplement se nourrir, mais plus que ça. Et la lave, n'est-ce pas donc que Shema Mina, on pourra déduire de là, Yachol, le maître a la possibilité de dire à son esclave, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. Shema Mina, la Gemara a conclu, effectivement c'est une bonne preuve. Finalement, donc en conclusion, nous avons une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Selon l'avis de Rav, un maître ne peut pas dire à son esclave, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas, alors que selon l'avis de Rabbi Yochanan, un maître le peut. Amarma, la Gemara reprend le passage enseigné plus haut, donc c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Dans le cas où une personne aurait coupé la main de l'esclave de son collègue, Rabbi Yochanan a dit, Noten shivto urfuato le rabo. Celui-ci donnera au maître de l'esclave, en plus du dédommagement pour la perte de la valeur de cet esclave occasionnée par la perte de sa main, il lui donnera le dédommagement pour arrêt de travail, qui sera calculé en fonction du travail que cet esclave pourra faire après qu'il soit guéri. Et cela parce que cet esclave ne peut pas travailler tant qu'il est malade. Et en plus, il donnera aussi à son maître les frais occasionnés par les soins de celui-ci. Et cet esclave sera nourri par la charité. La Gemara dit, Shema Mina, on pourra déduire de cet enseignement de Rabbi Yochanan, Yachol Rav Lomar La Eved Aseimi Veinizanach. Un maître peut dire à son esclave, travaille avec moi et je ne te nourrirai pas. Parce que nous voyons ici que cet esclave sera nourri par la charité, bien que le maître soit entièrement dédommagé pour l'arrêt du travail de l'esclave. La Gemara répond, Hacha b'maskinan b'malelo mezonot. Ici, il s'agit d'un cas où le maître le nourrit. C'est la raison pour laquelle les dédommagements reviennent au maître. Yachi, la Gemara demande si c'est comme ça, amaynizon minadtaka, pourquoi cet esclave sera-t-il nourri par la charité, puisqu'il est déjà nourri par son maître? La Gemara répond, leha adafa. Si cet esclave a besoin d'un supplément de nourriture pour se rétablir, il le recevra de la caisse de la charité. Cela, en effet, le maître n'a pas l'obligation de le lui donner. La Gemara demande, ah, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan s'exprime en disant, il se nourrira, mit parnes mi vaele? Rabbi Yochanan aurait dû s'exprimer différemment. En effet, Rabbi Yochanan aurait dû dire, la charité pourvoira aux besoins de cet esclave. On n'aurait pas dû parler spécifiquement de la nourriture. Et la lave, n'est-ce pas donc, Shema Mina, nous pourrons déduire de là, Yachol, que le maître peut dire à son esclave, travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas, comme nous l'avons expliqué. La Gemara conclut, Shema Mina, effectivement c'est une bonne preuve. Finalement, nous voyons ici une discussion entre Rabbi Yochanan et Rav. Selon Rav, un maître ne peut pas dire à son esclave, travaille avec moi, et je ne te nourrirai pas, alors que selon Rabbi Yochanan, le maître le peut. Amarma, la Gemara reprend le passage qui a été cité plus haut. Il s'agit de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Noten shivto urfuato le rabo. Celui qui coupe la main de l'esclave de son collègue donnera les frais de l'arrêt de travail au maître et aussi les frais occasionnés par les soins de celui-ci. Il le donnera donc au maître. La Gemara demande shivto, les dédommagements pour l'arrêt de travail. Pshita, il est évident que cela revient au maître, puisque finalement, le travail de l'esclave revient au maître. La Gemara répond, refuato itztarichale. Le chidouche, enseigné par Rabbi Yochanan, est de nous dire que même les frais occasionnés par les soins reviennent au maître. La Gemara demande, refouato didehi, les frais occasionnés par les soins de l'esclave reviennent à l'esclave, debaye itsuyebe, parce qu'il a besoin de se guérir avec. En effet, comme l'explique le Rama, quand la Torah a exigé que celui qui blesse son ami le guérisse, il ne s'agit pas d'un dédommagement monétaire, mais d'un dédommagement physique, il doit donc le guérir. Finalement, donc, les frais occasionnés par les soins doivent revenir à l'esclave pour qu'il puisse se guérir avec. Il ne s'agit pas d'un paiement qui peut être empoché par quelqu'un. La Gemara répond, il s'agit ici d'un cas où on a évalué que les frais occasionnés par les soins seront de 5 jours. En d'autres termes, il faudra payer pendant 5 jours un docteur pour le guérir. Et on lui a donné des médicaments puissants, Ve'itse Betlatayome, et il a été guéri en 3 jours. Seulement, puisqu'il s'agissait de médicaments puissants, ces médicaments ont fait souffrir cet esclave. J'aurais pu croire que les dédommagements de la souffrance reviennent à l'esclave. Kamash Malan, pourquoi Rabbi Yochanan nous enseigne que les dédommagements occasionnés par la souffrance reviennent au maître. En d'autres termes, il est vrai que les soins ont été raccourcis de 2 jours, mais en contrepartie, il faudra dédommager l'esclave pour la souffrance occasionnée par les médicaments puissants. Cela reviendra au maître, comme l'a dit Rabbi Yochanan. De là, nous apprendrons aussi que le dédommagement de la souffrance occasionnée à cet esclave par le fait que sa main a été coupée revient aussi au maître. Cependant, comme le précise le Yamshel Shlomo, le maître ne pourra pas imposer à son esclave des soins qui le feront souffrir sans son consentement. La Gemara revient à la Mishnah. Nous avons vu dans notre Mishnah donc une discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim concernant une personne qui donnerait un titre d'affranchissement à un émissaire en lui disant « Transmets-le à mon esclave ». Selon l'avis de Rabbi Meir, le maître peut se rétracter parce qu'il considère cet affranchissement comme portant préjudice à l'esclave. Et une personne ne peut pas faire un acte d'acquisition pour le compte d'une autre personne si cette action peut porter préjudice à la personne intéressée. Par contre, les Chachamim pensent que le maître ne peut pas se rétracter parce que l'affranchissement est considéré comme étant un bénéfice pour l'esclave. Alors, la Mishnah a précisé cette discussion que selon les Chachamim, de toute façon, un maître peut ne pas nourrir son esclave. La Gemara a expliqué cette phrase. Rabbi Meir a répondu que finalement, cet affranchissement interdira la consommation de la Trouma à cet esclave si son maître est Cohen. Les Chachamim ont répondu là-dessus que le fait que l'esclave a le droit de consommer de la Trouma, ce n'est pas un droit, mais c'est parce qu'il appartient au Cohen. Dès qu'il n'appartient plus au Cohen, automatiquement, il ne peut plus consommer la Trouma. En l'Agmara dit, Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Elazar, Amar Noulo le Meir. Rabbi Elazar parle ainsi de Rabbi Meir, parce que c'était son collègue. En tout cas, nous avons dit à Rabbi Meir, Vehalo, Zchutu le Eved, Shotse Mitachat Yederabo le Cherut. Voici que c'est un bénéfice pour l'esclave de quitter l'autorité de son maître pour être affranchi. Amar Lano, Rabbi Meir nous a répondu, Chovulo. Cet affranchissement est un préjudice pour l'esclave. Chez Imaya Evet Cohen, Poslo Minatruma. Parce que si c'était l'esclave d'un Cohen, cet affranchissement lui interdira la consommation de la Trouma. Amar Noulo. Nous lui avons répondu. Vehalo, ma imirtse shelo le zuno, veshelo le farneso, rachai. Et s'il ne voulait pas le nourrir ni pourvoir à ses besoins, il aurait le droit. Amar Lano, il nous a répondu, Uma ilu evet kohen shebarach. Si l'esclave d'un kohen s'est sauvé, veeshet kohen shemarda albala, ou la femme d'un kohen qui s'est sauvée de chez son mari, halo ochlin bitruma. Voici qu'ils peuvent encore consommer de la truma, veze eno ochel. Alors que cet esclave, une fois qu'il a été affranchi, ne peut plus consommer de la truma. Finalement, donc, cet affranchissement est un préjudice pour lui. Alors, les chachamim disent, aval, Isha chovulo. Cela, nous sommes d'accord que le divorce d'une femme est un préjudice pour elle, chez Ken Pasla Mina Truma, parce qu'il lui interdit la consommation de la Truma, ou Mafsida Mina Mezonot, et aussi ce divorce lui fera perdre le droit de se faire nourrir par son mari. La Gemara demande, Mai Ka Amgule ou Mai Ka Mehader Lehu? Qu'est-ce que le Chachamim ont dit à Rabbi Meir et qu'est-ce qu'il leur a répondu? En d'autres termes, quand les Chachamim lui ont dit, voici que cet affranchissement ne sera pas un préjudice pour l'esclave puisque le maître peut ne pas le nourrir, en quoi Rabbi Meir répond-il en leur disant que si l'esclave se sauve, il peut encore consommer, il pourrait théoriquement consommer de la Trouma? La Gemara répond, Hachika Amarlou. C'est ainsi que Rabbi Meir a voulu leur dire. Heshavtouni Alamzonot, vous m'avez répondu que le fait de ne plus être nourri par son maître n'est pas un préjudice pour l'esclave, parce que de toute façon, le maître peut ne pas le nourrir. Mateshuvuni Alatouma, mais que me répondrez-vous sur la Trouma? Parce que là, il y a un préjudice pour l'esclave, il perd le droit de consommer de la Trouma. Vechitemrou, et si vous me direz, Iba Ezarik Legita, si le maître voulait, il aurait pu lui jeter un titre d'affranchissement dans son domaine, ou pas s'il l'est, et ainsi, il lui interdira la consommation de la Trouma, puisque par cette manière, il sera affranchi. Bon, là aussi, ce n'est pas une réponse, parce que Shavik Leveharik, parce qu'il peut le laisser tomber le maître et se sauver de lui, Veazil Le Alma, et qu'il parte n'importe où dans le monde, de manière à ce que le maître ne puisse plus l'atteindre et ne puisse plus l'affranchir.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.